7h30, le journal Paul Sertillange, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. 4 jours que l'Ukraine se bat contre la deuxième plus grande armée du monde et pour le moment, Kiev résiste. La capitale se réveille ce matin après une nuit relativement calme. Nous sommes sur place avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Après la menace nucléaire brandie par Poutine, plus de sanctions répond l'Union Européenne. La fermeture notamment de l'espace aérien à tous les avions russes. Décision historique aussi de l'Allemagne qui annonce doubler son budget militaire. Dans ce journal également, Saint-Étienne de Rouvray, le procès de l'attentat. Sœur de victimes, mère de terroristes, toutes les deux amies dans la souffrance. Et puis la course au parrainage, ça va passer pour Éric Zemmour et Marine Le Pen.
On parlera des parrainages également avec l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50. C'est aujourd'hui le président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan.
France Inter.
L'Ukraine débute son 5e jour de résistance.
Face à l'armée russe, le combat semble être impossible à gagner pour les Ukrainiens. Mais après 4 jours de guerre, le pays se réveille et Kharkiv, la deuxième plus grande ville, n'est pas encore vaincue. La capitale aussi tient bon à Kiev, où l'on retrouve l'une de nos envoyées spéciales, Vanessa Descoureaux. Vanessa, la nuit a été relativement calme, mais cela semble bouger à l'ouest du pays.
Oui, c'est certainement ce qu'il faut retenir de cette nuit, c'est qu'il y a désormais beaucoup plus d'activités à l'ouest de Kiev et donc à l'ouest du pays, avec notamment de premières frappes hier sur la ville de Zhytomyr. Alors ça dit pas forcément grand-chose Zhytomyr, mais c'est important parce que c'est la dernière grande ville à l'ouest avant Kiev, donc c'est à 150 km de là. C'est l'aéroport qui a été touché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes cherchent un aérodrome pour faire atterrir leurs troupes aéroportées parce que toutes les forces russes engagés dans cette guerre ne sont pas encore déployés sur le sol ukrainien. Ce sont les services de renseignement américains en tout cas qui disent ça. Ils estiment qu'il y aurait encore un tiers des militaires russes hors d'Ukraine au moment où nous parlons. Donc ce début d'offensive à l'ouest avec toutes les précautions d'usage quand on parle de début d'offensive à l'ouest, en tout cas, ça signifie peut-être un ajustement de la stratégie de Moscou parce que puisque Kiev résiste, puisque Kiev ne tombe pas par la seule poussée par le nord, c'est-à-dire via le Bélarus, alors Moscou est peut-être en train de mettre la pression par l'ouest, territoire jusqu'ici quasi épargné par le feu et la fureur des Russes.
Vanessa Descoureaux, envoyée spéciale de France Inter à Kiev, merci à vous. Et pour soutenir les Ukrainiens, l'Union européenne frappe fort. Elle a annoncé hier soir débloquer 450 millions d'euros pour fournir des armes aux Ukrainiens. Annonce aussi de plusieurs sanctions. Le gel des transactions financières de la Banque centrale russe, après avoir déjà interdit samedi soir à plusieurs banques russes d'utiliser le réseau interbancaire SWIFT. Les médias d'État russe Russia Today et Sputnik vont être bannis de l'Union européenne. Il y a aussi mesure majeure, la fermeture totale de l'espace aérien européen à tous les avions russes. Sanction qui avait déjà été prise par un certain nombre de pays. Thomas Giraudeau.
C'est la première sanction annoncée hier soir par la présidente de la Commission européenne avant celle contre la Banque centrale et les médias contrôlés par Moscou. Ursula von der Leyen s'est d'abord attaquée aux avions russes.
Ces appareils ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler l'espace aérien de l'Union européenne. Je vais être très clair, notre espace aérien sera fermé à l'ensemble des avions russes, y compris les jets privés des oligarques.
11 allers-retours par semaine avec la France sont annulés, ceux des compagnies russes Aeroflot et Rossiya qui assuraient des liaisons entre Paris et Moscou ou vers Saint-Pétersbourg. 11 vols auxquels s'ajoutent les 9 effectués chaque semaine par Air France. Le transporteur ne passe plus jusqu'à nouvel ordre par l'espace aérien russe. Cela entraîne aussi la suspension des vols vers l'Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée. Ils passaient par la Sibérie et doivent trouver un autre chemin, explique le ministre délégué chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari.
Les impacts sont sur les vols long courrier qui pourront être reroutés par des routes beaucoup plus au sud, par les pays du Golfe, par l'Inde, remontent vers la Chine et les compagnies sont évidemment engagées pour assurer la continuité des destinations, mais en toute sécurité, ce qui ne paraissait pas aujourd'hui possible.
Le Quai d'Orsay recommande à tous les ressortissants français de passage en Russie de partir au plus tôt en transitant par des pays qui n'ont pas encore fermé leur espace aérien aux avions russes.
Et d'autres sanctions pourraient peut-être bientôt suivre. Ce matin, le président américain Joe Biden a annoncé appeler ses alliés pour coordonner une nouvelle réponse.
Autre décision historique, l'Allemagne va doubler son budget militaire.
Et face au conflit armé à ses portes, Berlin va investir massivement dans son armée, livrer des armes à l'Ukraine et renforcer ses sanctions économiques. Nathalie Versieux, c'est un changement complet de logiciel pour les Allemands sur le plan de la diplomatie comme de la défense.
C'était l'un des mantras de la diplomatie allemande. Le pacifisme héritait du profond sentiment de culpabilité des Allemands depuis les atrocités commises par les nazis. Ils volent en éclats alors que Kiev, à moins de 1500 km de Berlin est pris sous le feu des bombes russes. Hier, lors d'une réunion exceptionnelle du Bundestag, Olaf Scholz a annoncé vouloir doubler le budget de la défense en 2022 avec 100 milliards d'euros de dépenses prévues pour moderniser une Bundeswehr notoirement sous-équipée. Depuis des jours, les stratèges de l'armée rappellent que l'Allemagne ne serait en l'état actuel ni capable de voler au secours des Pays-Baltes, ni même d'assurer sa propre défense. Les effectifs de la Bundeswehr sont passés depuis la chute du mur de 500 000 à 200 000 hommes. Le monde est entré dans une ère nouvelle, a martelé Olaf Scholz, pour justifier ce changement de cap particulièrement radical pour son allié vert et sa longue tradition antimilitariste. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
7h36 en France, le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray entre dans sa troisième semaine.
Il y a 5 ans et demi, le prêtre Jacques Hamel était assassiné, puis les deux terroristes ensuite tués par la police. Ce sont 3 membres de leur entourage qui comparaissent devant la cour d'assises spéciale à Paris. Et aujourd'hui, la cour doit entendre la mère d'Adèle Kermiche, l'initiateur de l'attentat. Elle témoignera devant Roselyne Hamel, la sœur du prêtre. Toutes les deux qui, depuis l'attentat, ont noué un lien d'amitié fort à Ariane Grissel.
Les deux femmes se rencontrent pour la première fois un peu plus d'un an après l'attentat. Elles se sont tombées dans les bras dans un grand silence, a raconté à l'audience l'archevêque de Rouen, témoin du rendez-vous. Une rencontre que Roselyne Hamel dit avoir sollicitée au nom d'une douleur commune.
C'est ce parcours de souffrance qui aura un lien inévitable jusqu'à la fin de nos jours. Et ce lien, c'est de maman à maman.
Car ces deux femmes ont plusieurs points communs, dont celui d'avoir eu chacune 5 enfants. La mère d'Adèle Kermiche avait alerté de la dangerosité de ce fils qui a tenté 2 fois de partir en Syrie. Roselyne Hamel.
Quand vous avez un enfant qui s'égare un peu du chemin, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire ? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait et que j'aurais dû faire ?» Je vous dis pas les questions qu'a pu se poser cette maman. Quand elle me raconte mon enfant, la chair de ma chair, mon bébé, j'ai dû demander que la police le prenne en charge pour le protéger de lui-même. C'est encore une culpabilité de plus, c'est pas rien. Franchement, c'est atroce son parcours.
Après sa deuxième tentative de départ en Syrie, Adèle Kermiche est placée en détention provisoire, puis sous bracelet électronique. Roselyne Hamel le sait, à la barre, la mère du terroriste dira tout le sentiment d'impuissance que peut ressentir un parent face à la radicalisation de son enfant.
Verdict attendu dans 10 jours, le 9 mars. Dans la course à la présidentielle, plus que 5 jours pour dépasser les 500 parrainages. La date limite, c'est vendredi. Il faut que le Conseil constitutionnel ait enregistré les signatures avant 18h. C'est déjà bon pour 7 candidats, pas encore pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais ils n'en sont plus loin et les promesses sont là, Maxence Lambrecq. Il n'y a plus de suspense, ça va passer pour eux.
Pas de séisme démocratique en fin de semaine. Éric Zemmour le craignait, son appel à l'aide, celui de Marine Le Pen ont été entendus. Dans les deux camps, on admet un soulagement. Ils recueilleront d'ici à vendredi les 500 parrainages nécessaires, notamment grâce aux appels du Premier ministre, du président du Sénat, du patron de l'Association des maires de France et de François Bayrou. Le patron du Modem a rassemblé pour sa banque des parrainages un peu plus de 350 élus. Ils vont aujourd'hui envoyer leur courrier rue de Montpensier. Et cela devrait aussi permettre à Nicolas Dupont-Aignan d'être candidat pour la troisième fois, ce qui donnerait exactement, comme en 2017, 11 bulletins de vote, 7 hommes et 4 femmes. La marche paraît bien trop haute pour Christiane Taubira. Sans parti politique, elle doit trouver plus de 370 parrains en une semaine. Le candidat du NPA, Philippe Poutou, François Asselineau, la représentante du parti animaliste, Hélène Thouy, vont sans doute aussi perdre cette course au parrainage. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, dévoilera la liste officielle lundi prochain.
Maxence Lambrecq. Le GIEC rend son dernier rapport ce midi. Rapport très attendu des experts scientifiques climat des Nations Unies. Les toutes dernières données pour mesurer les risques, offrir des pistes pour trouver des solutions, mais aussi comment s'adapter aux conséquences maintenant inévitables du réchauffement climatique. À quoi doivent ressembler nos campagnes? C'est autour de cette question que s'opposent éleveurs et une partie des habitants des Combrailles en Auvergne. Un jeune agriculteur souhaite s'agrandir en créant une porcherie. Mais riverains et associations s'y opposent. Ils ne veulent pas de pollution. Il veut développer, lui, l'activité économique dans une région en proie à l'exode rural. Un projet qui pose à nouveau la question de la cohabitation dans les territoires. Reportage sur les hauteurs du GIA dans le Puy-de-Dôme de Faustine Calmel.
C'est ici, sur un plateau à 800 mètres d'altitude, que doit se monter le projet.
Une place entre les deux bâtiments.
Que soutient le maire de GIA, Didier Sénégas-Rouvière.
C'est un bâtiment quelques centaines de mètres carrés, avec
mouvement de porcs de environ 1000 porcs par an.
Mais 1000 porcs après la ferme des 1000 vaches, cela inquiète les riverains, notamment à Baville, 10 km plus loin, où sera épandue une partie du lisier au-dessus de chez Xavier Dubois et sa compagne maraîcher bio.
Du coup, nous, ce qu'on craint, c'est vraiment un ruissellement des nitrates et des phosphates qui vont venir avec jusque dans la source qui nous permet d'irriguer.
Des cours d'eau déjà en mauvais état, constate Michel Vigier, président de l'association de pêche locale.
Aujourd'hui, dans ces petits ruisseaux, il n'y a plus rien. Donc on a peur que la dernière rivière à truite qui reste sur le secteur disparaisse du fait de cet épandage.
Face aux tensions, le jeune agriculteur concerné refuse de s'exprimer. L'un de ses voisins accepte, à condition de rester anonyme.
Il ne faut pas faire l'amalgame de la Bretagne il y a 30 ans. La pollution des nitrates aujourd'hui est très très contrôlée. Et si on dépasse, on paye des pénalités. Donc on n'a aucun intérêt à faire n'importe quoi avec des effluents d'élevage. S'il n'y a plus d'agriculture dans le milieu rural, il ne faudra pas se plaindre qu'il n'y ait plus rien dans nos petites communes.
Il s'étonne aussi des contradictions de consommateurs qui veulent manger local sans avoir d'élevage à leur porte. Les détracteurs répondent qu'ils souhaitent seulement un autre modèle agricole.
Ils ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et réfléchissent à une action en justice.
Paul Sertilange pour ce journal. Merci à vous. L'édito politique est à suivre.